France Inter,
franceinter.com.
Merci Olivier Bois. Studio Théâtre, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Je suis un mystique au fond, mais je ne crois à rien. La débauche me plaît, mais je vis comme un moine. Cette phrase de Flaubert colle à la personnalité de Fabrice Luchini à merveille. Fabrice Luchini ne s'appelle pas Patrice. C'est un coiffeur qui lui a trouvé cet autre prénom, sans doute pour faire plus chic, mais Robert. Est-ce pour cette raison qu'il a intitulé son spectacle qu'il reprend à l'Espace Cardin « Tout sur Robert » ou parce qu'il a tourné un film en 1998 avec Pascal Bonitzer qui s'intitulait « Rien sur Robert ». Comme un équilibriste, il reprend son souffle et sur la corde, par cœur, de mémoire, il nous donne ses lectures de Molière, Valérie, Barthes. Son corps entier devient livre incarné. Difficile d'aller plus loin et pourtant on sent qu'à chaque représentation, il y a risque. Fabrice Luchini ou la prise de risque, portrait d'un éternel inquiet. Fabrice Luchini, j'ai eu la chance de vivre, parce que c'est le mot vivre qu'il faut employer quand on va voir vos spectacles, le point sur Robert. Avant de vous poser des questions, vous qui êtes l'homme le plus ininterviewable de la Terre, j'avais une interrogation. Le point sur Robert, évidemment, on pense au dictionnaire, mais moi je me suis dit que Robert, en fait, c'était votre vrai prénom.
Oui, je cherchais le titre, ça a été une carte blanche pendant 6 mois, ce travail-là, qui était sur Valérie. J'avais été hier soir. Il y a un livre qui m'obsède, c'est le livre de Barthes, ce fameux point sur le nez qu'on a connu, notre génération, le palace. Ce point sur le nez, c'est-à-dire ce que Barthes appelle le défaut, cette altération de l'objet parfait qui est l'objet amoureux et qu'il appelle, lui, le point sur le nez, le défaut, le truc effrayant. Colette a fait un très beau roman là-dessus, le képi, tu sais, le détail qui fait que la personne que tu te crois géniale. On a connu ça. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir dire qu'en réalité, l'état amoureux est une tragédie puisqu'on est tout le temps en train de qu'était le défaut qui va surgir, qui va nous montrer qu'on a inventé totalement l'autre, puisque l'état amoureux est amoureux. Et ce point sur le nez, c'est ce mot, je me suis dit, c'est vraiment mon texte préféré. Et puis je me suis dit, comme mon vrai prénom c'est Robert, on va mêler le point sur le nez au point sur Robert. On va faire le point sur Robert, parce que c'est la première fois que, contrairement à Céline ou La Fontaine, je fais autant de mes histoires personnelles, de mon propre one-man show, terme effrayant, que des auteurs. Donc, je me suis dit, le point sur Robert, ça tombe bien, ça ne veut rien dire. Je voulais l'appeler par un autre titre, je voulais l'appeler En attendant François, parce que Hollande était venu. Je ne sais pas comment je voulais l'appeler. Puis à un moment, je me suis dit, je veux l'appeler comme ça, le point sur Robert. J'aurais bien voulu l'appeler quelque chose autour de Roland Barthes, mais c'était compliqué. J'aurais bien aimé l'appeler un truc qui ne voulait rien dire. Mais c'est devenu le point sur Robert, et donc, voilà, c'est le point sur le nez et le point sur Robert. Ça parle du rapport amoureux. Un point sur qui est derrière Fabrice, il y a Robert, vaguement. Tant, il y a 50 ans, j'étais un apprenti coiffeur. Voilà. Donc, on m'a appelé.
Pas il y a 50 ans.
Il y a 40 ans.
Ouais.
Oui, j'ai pas 64. Non, j'ai 54.
Vous êtes encore un jeune homme.
Oui, en tout cas.
En tout cas, vous avez de la mémoire parce que vous faites semblant pendant le point sur Robert. Donc, ce point sur Robert qui est quand même une tentative d'auto-évaluation, une forme d'auto-psychanalyse en public. Vous faites semblant de lire les livres alors qu'en fait, vous les connaissez par cœur, les extraits.
Ah bah oui, quand même, oui.
Ah bah quand même, il y a plein de mises en espace.
Oui, mais ça, c'est pas bien.
France où les gens lisent, des acteurs sur scène viennent lire. Alors, Homer dans votre spectacle.
Mais attends, c'est très compliqué, hein. Attention, c'est un problème compliqué. C'est extrêmement complexe. Lire a un très bon côté, c'est qu'il empêche le jeu de l'acteur de s'amplifier par une trop grande aisance. Mais lire en annonnant et en ne connaissant pas la science de la lecture, qui serait, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire lire, c'est écouter. Je vous demande au lecteur, disait Nietzsche, plein de portes ouvertes, plein d'arrière-pensées, et je vous demande cette faculté que les hommes n'ont plus, c'est-à-dire celle que la vache a, c'est-à-dire de ruminer. La lecture à haute voix est un problème énorme, on ne va pas le résoudre maintenant. Ce n'est pas parce que maintenant, partout, dans tous les théâtres, en banlieue et en province, des gens lisent des textes qu'ils ont résolu le problème de la restitution de l'écrit dans l'oralité. C'est un gros problème, et ce n'est pas non plus en sachant tout par cœur et en annonnant comme un théâtreux que tu résous la non-trahison du texte écrit. Il n'y a que Jouvet qui a résolu ce problème. Il n'y a pas de texte assis, dit Jouvet. Et c'est là où Jouvet est la source de tout, de tout, de tout. Et c'est notre phare. C'est qu'il n'y a lecture que quand il y a cette cicatrice écrite qui s'appelle la phrase sur un livre, devient énergie. Et c'est cette énergie-là que le comédien doit aller chercher en étant au plus proche du texte. Donc le problème de la lecture, c'est très compliqué. Est-ce que j'ai dit Céline ou La Fontaine ou Paul Valéry, tout ça c'est compliqué. Alors en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est le minimum de tout savoir, presque quasiment vraiment l'avoir en bouche. Mais on peut lire, c'est beau aussi de lire, mais il faut l'avoir mis en bouche pendant des semaines et des semaines.
En tout cas, vous ne lisez pas Fabrice Luchini. Alors évidemment, vous connaissez par cœur ce texte de Céline où il s'amusait, ce texte intitulé Le Règlement. Alors effectivement, vous chantez, mais en playback, pas en live.
Un petit peu.
Fabrice.
Je dis les
Robert.
Débuts de Perceval, alors je dis ce fut autant qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés. Les gens sont pliés en deux parce qu'ils voient mes tentatives pathétiques de chanter. Ça les fait marrer, ça c'est drôle.
Vous essayez de chanter, vous en tirez pas trop mal, mais par moments vous faites appel à la bande-son du film Perceval
de
le Gallois, que j'avais vu en montant, j'avais beaucoup aimé. J'étais pas parmi ceux qui ricanaient. Et cette admirable langue de Chrétien de Troyes que vous restituez à l'intérieur de votre spectacle et que vous réussissez à la magnifier, à la faire comprendre de l'intérieur.
Ah, ça me touche énormément parce que c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'au milieu de la drôlerie...
Elle est physique, elle est sensuelle.
Voilà, au milieu de la drôlerie de la situation catastrophique de ce qui m'arrivait, il y a aussi la volonté que le Chrétien de Troyes en question, poète sublime du XIIe, soit restitué. C'est pour ça que j'en dis le plus possible. Votre père, s'il ne savait fut à la jambe un jour blessé. Vous savez, c'était Pascal Augier qui disait ça. La fille de Bulle, qui nous a quittés après les nuits de la pleine lune, qui a été cette fulgurante comédienne.
Génial.
Et qui disait ce texte. Et c'est bizarre, parce que je ne veux pas le dire tous les soirs, mais ce spectacle, c'est quand même une liaison avec ces années 75, 80, 85, qui ont été importantes pour les gens de ma génération, du Palace à Roland Barthes, de Romère à Pascal Augier. Et elle disait ce texte, Pascal, je me souviens très bien, elle disait « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, chu en grande pauvreté. Et vous qui, tout petit, étiez deux grands frères, Moulbeau, Tavien. » Et je vois la jouissance incroyable, parce que je vois le public qui ne sait pas s'il faut se moquer ou pas se moquer, surtout que j'ai lu le texte de Barthes avant pour leur dire que ceux qui se moquaient à ce moment-là,
attention, j'ai parlé des bouteilles à oxygène. Vous allez perdre l'oxygène là.
Techniquement, non. J'ai fait des phrases plus longues. Mais l'ambition. Là, il y avait une troc que Deleuze disait. Deleuze s'interrogeait beaucoup sur la réalité. Est-ce que le théâtre est inscrit dans l'époque ? Et il avait presque envie de dire non, lui.
Ça l'intéressait. Mais il n'aimait pas beaucoup le théâtre.
Ça l'intéressait moyennement. Il était plus intéressé par l'architecture,
le
par
cinéma.
Beaucoup de choses, la psychanalyse, le cinéma, évidemment. Et le théâtre l'ennuyait quelque part. Barthes était aussi, dans l'époque où je l'ai connu, assez accablé par le théâtre. Il avait détesté Vitesse. Il avait trouvé que Vitesse avait été une chose absolument monstrueuse sur la notion de distanciation. Il avait détesté la manière dont Vitesse avait monté Brecht. Et comme il n'avait pas d'éthique de sincérité, ce que je lui ai d'ailleurs pris aussi. Il m'a toujours conseillé de ne pas être sincère. Ça, il me l'a dit personnellement, Barthes. J'avais été étonné qu'il dise du bien de quelque chose à quelqu'un. Et en partant, je lui ai dit, mais vous n'aviez pas tellement aimé. Il me dit, je n'ai aucune éthique de la sincérité. J'ai adoré ça. C'est les gens intelligents qui n'ont pas d'éthique de la sincérité.
Ceux qui veulent... pas sûr.
Mais la sincérité, c'est Philinte, c'est Alceste par rapport à Philinte. C'est celui qui veut dire la vérité. Et le grand
homme... Non, celui qui veut dire la vérité, par définition, ne la dira jamais. Tandis que vous, vous êtes dans la vérité de l'intériorité et de la mastication et de la domestication.
Oui, là, je vous parlais dans les rapports sociaux. Pour que des rapports tiennent dans la société, il faut plutôt mentir. Qu'est-ce qui se passe dans Alceste, en Philinte, hein, dans le misanthrope ?
Mais il y a... non.
Eh bien, si, c'est que Philinte, c'est
mentir. Dans Molière,
mentir.
Peut-être, mais dans la vie.
Eh bien, dans la vie, il faut mentir, bien sûr. C'est mentir ou mourir. On développera, on fera une émission avec Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy du concept du mensonge.
Je veux bien, mais tous les trois.
Appelle Nicolas et Ségolène, je t'en prie. Et alors, on appelle Nicolas.
Devant sa fille.
Je peux pas imaginer.
Vous avez été bon hier. Moi aussi j'étais là. Je suis pas votre sœur, mais j'étais là, ni votre fille. Mais vous avez été bien. Elle a tort, votre fille.
D'accord.
Alors, je cache depuis le début de cette émission un cadeau que je voudrais vous faire. Alors, je le cache, mais vous allez comprendre ce que c'est. Et je vais vous en lire le début de la page 488. Le paradoxe du cachet, la publicité du cachet, peut s'énoncer ainsi. Sachez que je suis en train de vous cacher quelque chose. Ou sachez non ce que je vous cache, mais que je vous cache quelque chose. Imaginons un sujet qui a pleuré et qui, pour que ça ne se voie pas, va mettre des lunettes noires. Bel exemple de dénégation, s'assombrir la vue pour ne pas être vu. L'intention du geste est ambivalente, provoquer à la fois la question tendresse, l'aide, et garder le bénéfice du stoïcisme et de la dignité. Voilà, vous avez compris que je voulais parler de Roland Barthes et je vous cache ce livre qui va bientôt sortir en librairie et qui est le carnet de pensée du fragment amoureux qui s'intitule « Le discours amoureux » et qui est le séminaire du Collège de France où vous alliez pour... En guise d'excitation, c'était mieux que d'aller coucher avec des filles.
Oh non, coucher avec des filles, rien de mieux.
Le séminaire de Roland Barthes,
le séminaire
matin,
de Roland Barthes, c'est que j'avais découvert qu'il avait tellement adoré le film de Romère qu'il en avait parlé dans son séminaire. Donc, ça fait pas...
Ah ouais, non, mais ça c'est narcissique, excusez-moi, Fabrice Robert Lucchini.
Ah bah là, par contre, le gars qui te dit qu'il est acteur et qu'il n'est pas narcissique, il ment.
Ah bon ?
Ah oui, ah, y a non, du gros narcissisme chez
l'acteur. Il n'aurait pas
parlé
pas, de vous,
mais je ne
vous n'auriez jamais été écouté Roland Barthes.
Bah, je ne savais pas était Barthes, je ne savais pas du tout qui était Barthes.
Mais vous l'auriez su, puisque vous lisiez à l'époque où vous étiez de gauche le Nouvel Obs.
Roland Barthes, je ne sais pas si je me serais accordé le droit d'aller à un collège si pointu.
Mais est-ce que vous savez, d'ailleurs il y a beaucoup d'auditeurs de France Inter qui ne le savent pas, que le Collège de France a été institué pour que tout le monde y aille. Toutes les personnes de la Terre peuvent venir écouter tous les professeurs du Collège de France. Il n'y a pas de carte à montrer, il n'y a pas de diplôme à avoir.
Donc on pouvait...
Il n'y a pas d'âge à avoir.
On pouvait aller écouter Valérie.
Absolument.
Ça, c'est le côté Laura Adler militante. Elle veut que les gens aillent au Collège de France. Donc les gens...
Mais il y a des choses passionnantes
Lévi-Strauss,
au Collège de France.
Ils pouvaient aller écouter Lévi-Strauss.
Ben bien sûr qu'on pouvait aller écouter Lévi-Strauss.
Ben, tu vois, j'aurais jamais imaginé. Moi, quand j'ai revu le Collège de France, j'ai halluciné.
Vous y alliez après avoir dansé toute la nuit
au palace. Voilà.
Mais et que vous n'arriviez pas, au lieu de manger une soupe à l'oignon, vous alliez écouter les propos de Roland Barthes.
À 10h. C'est beau quand il rentre et qu'on entend aujourd'hui, c'est le concept du « c'est ça », le concept du « tant qu'il fait ». Je suis assez heureux, enfin je suis plus qu'heureux. Réévoquer Barthes, réévoquer ses années, c'est quelque chose de délicieux. Alors il y a le public, c'est plus du tout. Il y a plein de publics qui me regardent un peu halluciné, mais c'est merveilleux.
Oui,
merveilleux.
Vous précisez à la salle que Barthes, c'est pas Barthès quand même.
Non, il y a une dame qui
quand
m'a demandé s'il était
même,
de la famille.
Quand même.
Mais parce que Laura Adler, vous êtes dans le soutien de la Sego, un télo, France Inter, mais il y a plein de gens qui m'ont demandé s'il était de la famille du footballeur.
Non.
Bah tu veux qu'on fasse un pari?
Il y a des gens. Barthes
marche très bien.
Barthes,
les jeunes
Roland.
Générations qui ne vont pas dans des écoles pointues ne savent pas tellement. Barthes se vend très bien. Barthes est éternel maintenant. Il a fait des succès. Mais les gens, dans mon public, allez les voir. Il y a 500 personnes tous les soirs. Il y en a 30 qui connaissent Roland Barthes. Et il y en a 500, 450 qui ne savent pas qui est Barthes. Ben c'est pas grave, on s'en fout.
Ils vont tous lire Fragments d'un discours amoureux et je vous propose de l'écouter.
Le mot littérature, c'est un mot relativement récent. Disons qu'au point de vue de l'histoire des mots, c'est un mot qui date peut-être tout au plus de la fin du XVIIIe siècle. Et avant, on ne parlait pas de littérature, on parlait de lettres, de belles lettres, d'humanité, etc. Alors, il s'est trouvé qu'à travers tout le XIXe siècle, et renfloué évidemment par des valeurs qu'on appelle maintenant très classiquement une idéologie bourgeoise, enfin soutenue par la société et la démocratie bourgeoise, le mot littérature est devenu vraiment un mot pourvu d'une majuscule, dans la mesure où c'est devenu, pendant très longtemps et jusqu'à il n'y a pas longtemps, un mot valeur. C'est un mot qui avait un pouvoir de valeur, et qui était très lié d'ailleurs à tout un appareil institutionnel, soit à travers des académies ou des groupements, pour ainsi dire, professionnels d'écrivains, soit à travers l'enseignement de la littérature, très important dans l'enseignement secondaire français, soit à travers tout simplement le commerce. Et c'est justement parce que le mot littérature s'est trouvé en quelque sorte compromis un peu dans cet appareil institutionnel assez marqué, sinon politiquement, tout au moins idéologiquement, qu'on l'emploie maintenant avec méfiance. On a une espèce de sentiment honteux vis-à-vis de la littérature, et là on parle plutôt maintenant d'écriture ou de texte. La littérature ayant été emportée dans la critique de l'humanisme.